c'est l'heure de chute, on écoute la télé. Votre talk show radio sur Attitude, votre radio en Charente avec Alain Jeanne. Chute, on écoute la télé. Avec votre espace culturel Leclerc à Ruffec, votre référence culturelle en Nord-Charente.
Chute, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier régional, élu saveur de l'année 2018. Vos points de vente en Charente sur langélis.com.
Chute, on écoute la télé. Avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse, un savoir-faire artisanal et des produits nobles pour un goût authentique. Dégustez l'excellence.
Et merci de nous rejoindre pour Chute, on écoute la télé, l'hebdo sur Attitude. Des équipes de films, des comédiens, des chanteurs et bien d'autres pour cette heure que l'on démarre ensemble maintenant. Alors c'est parti pour le sommaire.
Chute, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Et je suis très heureux de vous retrouver pour ce premier numéro de l'année 2020 de Chute, on écoute la télé, avec évidemment pour commencer plein de surprises. Et c'est au nom de votre radio et de l'émission Chute, on écoute la télé que je vous souhaite une très très belle année pleine de surprises. Et nous, on va commencer avec des belles surprises à vous proposer aujourd'hui, avec dans un instant celui qui joue le rôle du capitaine Éric Normand dans Plus belle la vie. Régis Ménard fait son retour cette semaine dans la série, il va tout nous dire bien évidemment. Nous allons également consacrer une partie de cette émission au lancement de la série Fête des Gosses qui démarre à mercredi sur France 2. À cette occasion, on recevra Philippe Lefebvre, le réalisateur, mais aussi Constance Dolé et Jonathan Lambert pour un entretien exclusif. Et puis nous allons également consacrer une large partie de notre émission à la sortie du film Une belle équipe qui sort au cinéma le 15 janvier prochain. À cette occasion, nous allons recevoir Mohamed Hamidi, Alexandra Roth, Sabrina Ouazani et celle qui avait été élue Miss Poitou Charente 2011 et qui fait un beau brin de carrière au cinéma, Manika Auxir. On en parlera bien évidemment tout à l'heure avec elle, avec un petit clin d'œil. Et en attendant, ben, je vous propose tout de suite de commencer comme d'habitude avec les audiences de la semaine dernière. C'est parti.
Les tops et flops d'audience.
Allez, on commence donc par un petit détour de vos audiences de la semaine dernière. Et on commence par lundi dernier sur La Guerre des Mondes sur TF1 qui arrive en tête avec 3 679 000 téléspectateurs et 17,2% de part de marché. Le film Nanny McPhee arrive deuxième avec 2 447 000 et 12,1% de part de marché sur M6. Et La Sainte Famille sur France 2 fait un petit score, seulement 2 031 000 téléspectateurs pour 9,7% du public. Et puis il y avait bien sûr le programme du réveillon mardi, le réveillon du premier de l'an. Et bien le grand bêtisier du 31 arrive en tête sur TF1 avec 23,1% de part de marché, 3 183 000 téléspectateurs. Et la chanson française fête le 31 sur France 2, et bien s'écroule hein, sans Patrick Sébastien, seulement 2 848 000 téléspectateurs pour 21,5% de part de marché. Celle qui s'en sort bien, c'est le capitaine Marlowe avec un réveillon avec Corinne Maziero. Et bien vous avez été quand même 2 266 000 téléspectateurs spectateurs et 15,7% de part de marché à fêter votre premier de l'an avec Corinne Maziero. Et puis mercredi, il y avait Meurtre en Auvergne sur France 3 qui arrive en tête avec 3 756 000 téléspectateurs et 17,4% du public. New Amsterdam sur TF1 arrive bon deuxième avec 14,7% du public et 3 298 000 téléspectateurs. L'invitation, la pièce de théâtre sur M6 arrive troisième avec 3 021 000 et n'oubliez pas les paroles spéciales à l'enfant, seulement quatrième avec 2 545 000 téléspectateurs pour 13,7% du public. Jeudi, il y avait Wolverine qui était diffusé sur TF1, le combat de l'immortel avec 17% de part de marché, 3 332 000. Et bien Wolverine arrive au coude à coude avec Prodigy, la finale, c'était sur France 2, 3 226 000 téléspectateurs pour 16,6% de part de marché. Le film Bon Rétablissement sur France 3 s'en sort pas mal avec 3 084 000 téléspectateurs et 11,4% du public. Et enfin vendredi, les touristes sur TF1 arrivent de peu hein, en tête avec 3 541 000 téléspectateurs et 17,3% de part de marché. Les petits meurtres d'Agatha Christie avec même une rediffusion fait un très beau score, 3 335 000 téléspectateurs, 15,4% du public. Et la saga des feuilletons et des séries sur France 3 s'en sort pas trop mal, au-dessus des 2 millions de téléspectateurs et 10,6% du public. Voilà ce qu'on pouvait dire des audiences de la semaine dernière et on va accueillir tout de suite Régis Ménard dans Chute, on écoute la télé.
Le rendez-vous des stars, c'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio.
Eh Eh bien voilà, on continue notre première émission de cette année 2020 avec Régis Ménard qui nous rejoint et qui fait son grand retour dans le rôle du capitaine Normand dans Plus belle la vie, la série que vous pouvez retrouver du lundi au vendredi à 20h20 sur France 3. Bonjour mon cher Régis.
Bonjour, comment ça va ?
Ça va très très bien et une très belle année 2020 déjà à toi pour commencer.
Ben, meilleurs vœux à vous, meilleurs vœux à toi et meilleurs vœux à tout le monde.
Qu'elle soit pleine de boulot, pleine de projets et puis plein de jolis rôles comme celui de ce capitaine Éric Normand qu'on a vu hein, avec Blanche ces derniers mois, un rapprochement certain en tout cas qui était en train de s'opérer. Et puis là, retour du personnage donc cette semaine, je dirais presque enfin.
Ah oui, je suis bien d'accord avec ça, enfin.
Bon, il y a eu un petit trou là quand même.
Oui, bah ça fait partie de notre métier et puis on est nombreux sur cette série, donc voilà, ça tourne et je suis très content de revenir en tout cas.
Alors on va avoir évidemment des arches articulées hein, autour de Blanche et de Éric dans les semaines qui viennent, sans trop spoiler. Est-ce que ce rapprochement va se confirmer un petit peu ou va mettre un peu de temps quand même ?
Bah ce rapprochement de toute façon existe puisque c'est un rapprochement dans, on va dire, de l'amour vache, d'une amitié utile aussi. Ils sont tellement différents, ces deux, qu'ils s'entendent bien.
Et on va voir évidemment de belles, à mon avis, scènes de comédie, parce que c'est vrai que qu'entre vous deux, il y a eu des jolies scènes de comédie entre le personnage de Blanche et d'Éric.
Ouais, c'est très plaisant pour moi de jouer avec Cécilia. Et puis on nous écrit de très belles choses et dans une sorte de comédie douce, on va dire, et tout en avec un arrière-fond d'enquête policière. Mais c'est un style de jeu qui est très plaisant. Ouais. Et puis moi, qui emmène mon personnage vers plus de douceur, qui le détend aussi, ça rajoute une autre facette à ce personnage. Donc c'est très intéressant. Ouais.
C'est ça que j'allais dire, justement, une autre facette du personnage, ce personnage un peu rentre-dedans, brut de décoffrage, et on découvre un autre Éric, en fait, finalement.
Oui, ben, je pense que comme tout être humain, il a ses paradoxes, ses secrets, son jardin secret, ce qu'il veut montrer, et puis en fait ce qui lui échappe aussi. Moi, ce qui m'intéresse toujours chez des personnages, c'est ce qui leur échappe. Et là, on m'écrit exactement ce qui lui échappe. Donc c'est assez génial à jouer parce que tu peux devant jouer la première impression et puis derrière il y a tout le reste qui commence à sortir quoi. Donc c'est vraiment très intéressant. Ouais.
On va le voir un petit peu au cœur du commissariat aussi quand même ou ça va vraiment être plutôt du côté privé qu'on va découvrir Éric pour cette intrigue future.
Un peu des deux, mon capitaine.
Et ben voilà, par exemple.
Non, mais oui, il est flic. Donc il y a toujours du flic, mais effectivement, c'est un mélange de privé et de professionnel.
D'autres projets, pour le coup, l'Est, pendant cette période, tu n'as pas tourné. Est-ce qu'on a pu te voir dans d'autres choses ?
Ben, j'en ai profité pour refaire un peu de théâtre. J'ai repris un spectacle solo que j'avais écrit il y a 5 ans, que j'ai rejoué, j'ai fait une quinzaine de dates là en octobre-novembre. Et du coup, ça m'a donné envie de le rejouer. Donc je pense qu'il y a des jolies choses qui vont se passer dans des petites parenthèses comme ça, parce que ce spectacle me plaît beaucoup. Et puis toujours ce projet de disque que je veux finir cette année sous le pseudo de Simple Charles, ce projet que j'ai commencé il y a 10 ans, donc il faut se décider à le finir.
Exactement. En tout cas, on va redécouvrir les aventures du capitaine Éric Normand dans Plus belle la vie, puisque tu reviens cette semaine à l'écran. Quand on te parle justement de Plus belle la vie et du capitaine Éric Normand, quelle est la scène qui tout de suite te revient en mémoire, la scène peut-être la plus drôle pour toi qui a été à tourner ou qui a été la plus difficile ?
Il y en a plein parce que ça commence à en faire pas mal depuis bientôt 3 ans que je suis là. Après, il y a une scène en particulier, c'était sur le début, sur l'arrivée. Forcément, le début, l'arrivée marque toujours fort. Et c'était la scène avec mon indique, après s'être embrassé, quand on découvrait que le capitaine Éric Normand avait une préférence pour les hommes. Les explications qu'on avait eues dans cette calanque sur un banc, il y avait eu des très très belles séquences. Voilà, c'est un. Pour moi, ça a été un moment très important qui a scellé un peu ce qu'allait être ce personnage, où il s'est dessiné un peu plus pour moi aussi sur une première fissure, quoi. Une première fissure et quelque chose qui apparaissait du côté du sensible, alors que, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, ce garçon est assez rentre-dedans. Il y avait une première fissure qui se dessinait là, donc c'est mon souvenir le plus prégnant.
Et si tu avais un rêve, Régis ? Le capitaine Éric Normand aujourd'hui est dans la police. On lui fait jouer plein de choses différentes. Mais si tu avais un rêve ultime, si par exemple la nouvelle productrice nous écoutait là à ce moment-là, qu'est-ce que tu aimerais, toi, qu'il arrive à Éric?
En fait, j'aime la surprise de recevoir le mail te disant que tu vas avoir une arche. Et j'aime me faire surprendre. Donc en fait, j'ai pas de...
Pas réfléchir ou penser avant à ce que tu aimerais, quoi.
Non, parce que je pense que ça, c'est plutôt du côté de l'écriture que ça se passe. Et écrivant moi-même par ailleurs, je préfère, quand je suis acteur, je suis plus un animal. Je suis plutôt du côté intuitif. Et donc non, j'ai juste envie qu'il meure pas. mais voilà, non, je suis ouvert à toute proposition. Et c'est toujours super d'aller jouer avec des nouveaux personnages de la série que tu connais, que tu as vu par ailleurs. Alors il y a des gens avec qui j'aimerais bien jouer, évidemment. Mais après, non. Il peut tout lui arriver. Enfin, c'est tellement bon quand arrive la surprise de recevoir les épisodes et te dire ah ouais, il l'emmène ici. C'est ça qui est plaisant
de se faire. C'est qu'ils ont de l'imagination.
Ouais. Puis c'est ça qui est très plaisant quand on est comédien, c'est de se faire diriger. Donc j'aime ces surprises là vraiment.
On te retrouve donc cette semaine dans Plus belle la vie. C'est le grand retour d'Éric Normand. Ne le rate pas, bien évidemment. Merci Régis d'avoir passé ces quelques minutes avec nous pour démarrer cette année 2020.
Merci à vous et bonne année 2020. Régalez-vous.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé.
Et on va faire une petite pause. On va se retrouver dans un instant avec la suite de notre émission, nos coups de cœur télé avec Fête des Gosses qui sera à l'honneur. Et puis bien sûr, notre coup de cœur ciné de cette semaine, une belle équipe avec toute l'équipe du film qui sera là justement tout à l'heure. Rendez-vous à ne pas manquer. Alors je vous dis à tout de suite dans Chute, on écoute la télé.
Bouge pas. Chute, on écoute la télé revient dans un instant. À tout de suite.
On est vraiment bien sans elle.
I just haven't met you yet.
Chute, on écoute la télé. Chute, on écoute la télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Et on va commencer à dérouler bien tranquillement nos coups de cœur télé de cette semaine, à commencer par ce soir, et c'est le grand retour de la série Sam avec Natasha Lindinger, Fred Testo et Fanny Gilles. Et Sam guérit de son cancer et prête à profiter de la vie. Elle est troublée par le retour d'Antoine, ami de lycée et père de l'une de ses élèves. Je vous propose tout de suite un extrait en avant-première.
Oh, pourquoi ? Oh, je suis en retard. Allez, attends, surprise.
Non mais madame, vous nous avez rien dit.
Ah bah c'est le propre de la surprise, ça.
Ici c'est chez moi, c'est l'endroit où je viens pour retrouver la paix de l'esprit. Vous me la grillez ici, ma clope.
Donnez-moi une.
Je pensais devoir enseigner la tolérance à mes troisièmes, mais je pense qu'il y en a d'autres qui devraient suivre mon cours.
Faut jamais passer à côté de ses rêves.
Non, non, mais crois-moi. Tu débarques dans ma vie après 30 ans. Tu voudrais que tout reparte comme avant, mais c'est pas possible.
J'aurais cité Y'a pas moyen, Dja-Dja.
Mais ça, c'est une chanson. Vous connaissez pas Aya Nakamura?
Journée très simple.
Et ce soir, sur France 2, c'est le retour de la série Les Rivières Pourpres. Après une première saison couronnée de succès, Erika Saint et Olivier Marchal reprennent du service pour 8 épisodes inédits. Et les deux premiers de ce soir, eh bien, c'est une femme qui est retrouvée morte dans un centre de bien-être haut de gamme. Elle a été tondue et porte une rosace gravée sur le corps. La victime, 69 ans, en paraît 20 de moins. Un épisode très prenant avec une mise en scène sombre à souhait.
Vous avez des suspects?
On a interrogé la moitié du village, mais personne ne sait rien. En fait, tout le monde est terrorisé.
Vous avez des problèmes avec des satanistes dans la région?
Dis-moi, ils me collent la pression, là-haut. Il me faut des résultats vite.
T'as qu'à leur dire de décoller le cul de leur chaise et venir patouger dans le merdier avec nous. Hein? Tu leur dis ça de ma part.
Si c'est vous qui êtes en charge de l'enquête, je vous préviens, c'est un cas particulier.
Le cas particulier, c'est ma spécialité.
Dieu a enfin entendu nos prières. Il nous a rendu notre Herminien.
Et si c'était pas ton fils, tu y as pensé? Si le mec qui s'est incrusté chez les Montferville, c'était pas Léon.
Ça va pas, non? Je l'ai pas élevé, mais je peux reconnaître mon fils quand même.
Tu fais chier, Camille, je te jure. Hein?
Et demain mardi, eh bien, c'est l'arrivée de la toute nouvelle série Le Reboot, hein, de la série des années 80 Magnum, qui fait son retour avec Jay Hernandez dans le rôle titre de Magnum. On va retrouver tous les ingrédients qui ont fait le succès de la série d'origine culte. Et je vous propose tout de suite, eh bien, un petit extrait.
Thomas Magnum, je préfère le terme enquêteur privé. Deux chiens de l'enfer me confondent avec un steak.
Ils assurent la sécurité.
À quoi je sers alors?
C'est une question que je me pose et que je pose sans arrêt.
Inédit, Magnum, prochainement sur TF1.
Et demain sur France 2, les pouvoirs extraordinaires du corps humain, un épisode inédit présenté par Michel Simès et Adriana Carambeu sur les pouvoirs de l'amour, épaulé par des scientifiques. Adriana et Michel passent en revue les mécanismes de l'attirance, la passion, l'arrivée d'Internet qui a bouleversé la donne. Ils évoquent également les difficultés relationnelles ou encore les chagrins d'amour. Extrait.
Adriana Carambeu, Michel Simès. Le duo reprend la route pour nous révéler tout ce que nous avons toujours rêvé de savoir sur les pouvoirs extraordinaires de l'amour.
Il y en a certains qui savent faire, comme toi.
Moi, j'étais une quiche.
Selon quels critères conscients et inconscients est-on attiré par quelqu'un ?
C'est plus l'homme.
Une odeur de mec, mais en même temps, pas trop couillu, quoi.
Quand on sent quelqu'un, on est en train de sentir son patrimoine génétique.
Comment fonctionne la séduction ? Pourquoi le langage de notre corps est-il alors beaucoup plus signifiant que nos mots ?
Elle penche la tête comme ça.
Donc là, ils sont mimétiques.
Rien n'est fait au hasard dans le processus de la rencontre.
Et on va passer à mercredi. Mercredi sur TMC, eh bien, vous allez pouvoir regarder le spectacle de Laurent Gérard sans modération, enregistré au Palais des Sports de Paris en 2018. Pour fêter ses 30 ans de carrière, l'imitateur propose un spectacle détonnant dans lequel il croque eh bien, les travers des chanteurs ou encore des politiciens. On va écouter tout de suite un petit extrait. Et juste après, eh bien, c'est l'équipe de Fête des Gosses qui arrive avec nous. Philippe Lefebvre, Constance Dolé et Jonathan Lambert.
Toujours debout.
Ça va ?
Toujours vivant, rassurez-vous. À 50 ans, toujours debout.
Ça va ? Ça se passe bien avec le petit nouveau ?
Hein ?
J'en ai fait des conneries dans ma vie. Hein. Mais j'aurais jamais pris François Bayrou dans mon gouvernement. Hein.
Ah, vous êtes pas gâtés quand même, vous autres au niveau chanteuse. Entre la Zaz qui a pas vu un pommeau de douche depuis Belle Lurette et la Christine on the Queen qui se tortille comme une maudite folle.
J'ai pas envie de dire du
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, nos coups de cœur télé cette semaine, eh bien, c'est Fête des Gosses. C'est la série qui arrive sur France 2. Série à ne pas manquer, réalisée par notre ami Philippe Lefebvre qui est justement avec nous. Bonjour mon cher Philippe.
Bonjour.
Et heureux de te retrouver avec ta femme de fiction, Constance Dolé, qui est avec nous. Bonjour Constance.
Bonjour.
Et puis celui qui est au cœur du triangle amoureux d'Anissa et Serge, qui joue le rôle de Clément, c'est Jonathan Lambert, qui est avec nous. Bonjour mon cher Jonathan.
Bonjour également.
Merci d'être avec nous. Alors on va planter un petit peu le décor avec toi Philippe, puisque tu as réalisé ces 6 épisodes. Qu'est-ce qui t'a fait y aller pour le coup sur ce projet en tant que réalisateur et comédien ? Parce que là, c'est double casquette, c'est-à-dire tu te retrouves devant et derrière les caméras, c'est pas toujours évident.
Bah, comme d'habitude, en fait, c'est un plaisir de spectateur. Je me dis, est-ce que j'ai envie de voir cette série ? Est-ce que je m'identifie ? Et là, pour le coup, oui, c'est vraiment notre génération. S'il fallait synthétiser le pitch, je dirais que ce sont des parents d'élèves. Fête des Gosses, c'est d'abord des parents d'élèves. C'est trois familles qui vont se croisés par le truchement de leurs enfants, par le fait que ces trois enfants sont dans la même classe. Donc, en fait, on a peu de gens avec qui on a autant de points communs que d'autres parents d'élèves. C'est-à-dire qu'on a des enfants du même âge, donc on est à peu près de la même génération. On habite tous le même quartier, donc c'est à peu près la même catégorie socio-professionnelle. Ce qui fait qu'à un moment donné, des parents d'élèves sont des gens qui ont le plus de points communs. Et je trouvais que c'était un bon point de départ pour une série. C'est très identifiant, tout le monde a des enfants, tout le monde se retrouve dans cette série. Et puis surtout, Fête des Gosses, ce que ça dit, c'est que, comme disait le pédopsychiatre Naouri, être les parents, c'est être de mauvais parents. C'est-à-dire que l'éducation, c'est le bordel. La famille, c'est le bordel, surtout aujourd'hui. Et chacun fait comme il peut. Et c'est ce qui m'intéressait dans cette série.
Moi, j'ai pu voir les deux premiers épisodes en avant-première. J'ai été un chanceux. J'ai passé un très très bon moment en regardant cette famille. J'aimerais que Constance, on puisse présenter un petit peu Odile. Comment on pourrait la définir, Odile, Constance ?
C'est une femme, je pense, qui a envie de bien faire. Elle est dans la représentation d'un idéal qui la rend, malgré elle, dans une volonté de tout maîtriser, de coller à des images parfaites, de vouloir rendre les gens autour d'elle heureux malgré eux. Et finalement, ça en fait un personnage de comédie, parce que c'est un personnage chiant, enfin, qui a des côtés très drôles, etc., mais qui a un personnage un peu lourdingue de temps en temps, quoi, voilà. Je sais pas comment... Oui, c'est une bourgeoise dont le centre d'attention se concentre autour de sa famille.
J'ai trouvé un petit côté Brie Van de Kamp de temps en temps.
Ah bah oui, ouais, c'est vrai. Bah, non, mais bien sûr, bah, parce que voilà, c'est un peu comme ce personnage. C'est vrai que c'est des femmes qui ont à cœur de calmer toute forme d'inquiétude imaginaire et qui projettent sur les autres leurs propres angoisses. Donc c'est vrai que c'est des personnages de comédie.
Alors on va présenter un peu le personnage de Clément avec toi, Jonathan. Comment on pourrait le définir ce personnage, même si la semaine prochaine on aura la chance d'avoir Amel Chabi et Fred Testo qui viendront nous en parler. Mais là tu es au cœur de ce triangle un peu amoureux puisque tu es l'ex, mais un ex un peu envahissant.
Oui, bon, eux ne sont pas très intéressants, donc faut peut-être pas les écouter la semaine prochaine. Mais non, c'est un personnage, oui, qui est très intéressant parce qu'il est en contradiction avec lui-même. C'est-à-dire qu'il travaille dans la banque, mais à la fois on sent qu'il est totalement anticapitaliste. Il a des discours avec les enfants qui sont des discours très très adultes sur le consumérisme. Enfin, là, je pense que c'est un personnage très torturé parce que il est en conflit avec lui-même et voilà, il y a quelque chose qui fonctionne pas et voilà, c'est certainement c'est ce qui va être l'objet des épisodes suivants, c'est résoudre cette espèce de conflit intérieur. Donc effectivement, comme le disait Philippe très justement, il est attachant parce que voilà, on est parents, on fait jamais comme il faut, on fait comme on peut et c'est les imperfections des uns et des autres, mais même de nos amis, ce qu'on aime chez les autres, c'est souvent c'est presque leurs défauts. C'est ce qui les rend en tous les cas singuliers.
On sent encore une profonde tendresse entre lui et Anissa.
Bah oui, mais je crois qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui existe. C'est en ça que la série est très actuelle. Moi, ce que j'aime aussi sur le ton de la série, c'est qu'elle est très actuelle, mais on sent qu'il n'y a pas un côté. Vous savez, souvent la télé veut s'emparer de sujets de société pour voilà, mais il y a un truc un petit peu marketing pour répondre à des envies, pour être dans le truc. Et je trouve que là, il y a quelque chose, ouais, de très très sincère dans les situations de toutes ces familles, qui fait que ça aborde des sujets dans lesquels tout le monde peut se reconnaître, mais sans que ce soit encore une fois factice. Donc aujourd'hui, c'est quoi une famille qui s'est séparée? C'est pas forcément un père et une mère qui se gueulent dessus. Il peut y avoir beaucoup de tendresse, beaucoup de complicité, beaucoup d'amitié. Il y a des gens qui sont séparés, qui vivent encore ensemble, voilà, qui continuent de s'engueuler sur voilà. Et Clément et Anissa font partie de. Mais justement, ça les rend effectivement très très attachants. Et ça peut être et je comprends tout à fait parce que c'est un sujet de comédie aussi. Pour le nouveau compagnon d'Anissa, c'est très énervant d'avoir son ex qui est toujours dans ses pattes et qui est en fait super sympa, qui est devenu une sorte de meilleur copain, de maman bise, de je sais pas quoi. Donc ce personnage est à claquer, je reconnais, enfin en tous les cas pour le nouveau copain d'Anissa.
Il nous fait beaucoup rire en tout cas. Alors dans la famille aussi Eva Darlan, Philippe, hein, dans la famille d'Odile et Alexandre.
Absolument, Eva Darlan joue ma mère qui commence à avoir des trous de mémoire assez inquiétants et on l'accueille à la maison avec Constance.
Pardon, je te coupe. En fait, en vous écoutant là, je me dis que c'est vrai que c'est un projet très particulier parce que on pourrait s'attendre à ce que ce soit une comédie, mais il a c'est alors Philippe, il a le enfin Philippe, les auteurs et producteurs ont eu vraiment ce talent de brasser des choses qui font aller à la fois de la comédie à des choses beaucoup plus profondes, et j'ai l'impression quand même que là c'est une série qui interroge vraiment la question de l'origine et de comment on se définit. En fait, vous parliez à l'instant du personnage d'Eva Darlan, mais je trouve que bon voilà, c'est un personnage qui perd la mémoire, qui sait plus très bien où elle en est, qui sait plus très bien qui elle est, mais ça c'est valable pour n'importe quel personnage de la série. Et ce que je trouve formidable, c'est que petit à petit les uns et les autres vont se trouver confrontés à des situations où ils vont être obligés vraiment de se poser la question de savoir comment ils se définissent indépendamment de leur rapport à leurs conjoints, à leurs enfants, à leur pays, à leur identité sexuelle, à tout un tas de trucs. Et en fait, je trouve que finalement, au bout du compte, ce qu'il en ressort, c'est que il y a des questions quand même très très fondamentales, quoi, qui sont soulevées, et pas de manière du tout. On les survole pas. Vraiment, ça se fait de manière très diffuse et très sincère et très honnête. En fait, moi, c'est ça qui me plaît beaucoup dans ce projet.
Je pense que voilà, ce qu'il y a de très très fort, même dans ce couple avec Odile, toutes les situations qui sont des situations qu'on a déjà vues, les enfants, les machins. Mais il y a une sincérité qui fait que on suit les personnages et on a un tel background que à la suite, dans les épisodes 4, 5, 6, à chaque fois qu'il va y avoir une situation, ça nous fait rire d'avance parce qu'on se dit, je sais comment elle ou il va réagir par rapport à ça. Et ça s'appelle vraiment l'empathie.
Caractériser les personnages. Je trouve vraiment ils n'ont pas été caractérisés à la truelle. C'est des vraies personnes, quoi. C'est-à-dire que vraiment il y a une espèce de d'art de la fugue là-dedans qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir. Et d'ailleurs, je trouve que ce genre finalement, il est complètement nouveau. Philippe, là, il a inventé à la réalisation et dans le montage et évidemment, c'est à l'écriture, hein, bien évidemment. Tout le monde a participé à l'invention d'un genre que moi, j'ai jamais vu en télé française, quoi.
C'est ce que j'appelle l'ascenseur émotionnel.
Ah bah, complètement. Mais ce que disait à l'instant John, en fait, c'est ça, quoi. C'est que là, ce qui était complètement prégnant, c'est cette manière d'exploser de rire et à vraiment, dans la seconde qui suit, de tomber dans quelque chose de sincèrement poignant, sans qu'on l'ait du tout vu venir, et c'est pas accompagné, on vous prend pas par la main, quoi. Les situations et les questions qui sont posées, est-ce qu'on garde un enfant ou pas, après, est-ce qu'on déménage ou est-ce qu'on déménage pas, est-ce qu'on fait valoir l'intérêt de l'enfant avant l'intérêt du couple, enfin, tout ça, c'est des questions vraiment pertinentes, quoi, et réelles et essentielles, je trouve. Enfin, c'est des vraies questions qui sont pas du tout édulcorées, en plus.
C'est pour ça que je disais que c'était un peu le talent de Philippe, parce que c'est ce qu'on pouvait ressentir en regardant Les Chamois. Par exemple, aussi, on avait un ascenseur émotionnel, on pouvait tellement rire avec tes personnages dans Les Chamois, Philippe, et à un moment donné se retrouver dans une émotion tout à fait particulière. Donc,
parce que en tant que spectateur, j'aime ça, j'aime aussi être surpris au détour d'une séquence de comédie par une émotion. Mais Les Chamois, c'était vraiment fait que pour déconner. Il n'y avait pas de peinture sociale ou voilà, c'était vraiment que de la comédie. Mais là, je me suis souvent posé la question, moi, en tant que metteur en scène, de me dire comment je passe de ce dîner. De ce dîner complètement explosif avec la famille Cato où Constance perd totalement pied, à juste derrière moi qui lui montre la photo de mes parents, de mes grands-parents déportés avec ma mère. Je me dis mais comment je fais ça? Je peux pas minimiser la comédie et ou minimiser le drame derrière. Donc en fait, je me suis dit qu'il y avait qu'une façon de réussir, c'était en étant totalement sincère dans un cas comme dans l'autre. C'est-à-dire que si les personnages étaient bien caractérisés dès le début, eh ben on allait les suivre dans tout ce qui leur arrive, parce que dans la vie, bah parfois on se marre, et puis juste derrière on a une mauvaise nouvelle, et puis en fait on se dit pas, bah dis donc, c'est con parce que juste derrière, juste avant je me marrais. Non, on vit des choses, et je me disais que si on les vivait sincèrement, sans les pousser, sans chercher à soit la comédie, soit à faire pleurer, en les vivant simplement comme elles étaient écrites, eh ben je pense que ça allait faire les rouages, le public allait faire le lien.
En tout cas, le pari est réussi. Moi, je vous le conseille. Découvrez cette semaine sur France 2. La série s'appelle Fête des Gosses. C'est parti pour 3 semaines. Et en plus, c'est gratuit, comme le dit Jonathan. Mais oui, faut le dire.
Il y a plein de séries aujourd'hui qui sont payantes, que ce soit sur des sites spécialisés, des chaînes à péage, tout ça. Mais France Télévisions, c'est vos impôts. Donc, profitez-en.
Exactement. Il faut en profiter. On découvre les 2 premiers épisodes cette semaine. Et puis, la semaine prochaine, c'est Fred Testo et Amel Chabi qui viendront nous en parler. On va vous soutenir pendant ces 3 semaines de diffusion. Merci à tous les 3.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci.
Tu comprendras plus tard, mais on est plus tard et je comprends pas. J'adore cette chanson. J'adore.
À toi, Serge.
Et alors, je vais pas te dire que Serge est un mauvais beau-père, mais pour la culture musicale de notre fille, je voudrais pas trop qu'il intervienne.
Oh, t'es chiant, Clément.
Clément, qu'est-ce que je vous sers?
Il est super beau, ce gâteau.
Mais on en met combien?
Bah, 11, Claudine. Jean-Paul a 11 ans.
Oui, c'est un drôle de nom pour un chinois, Jean-Paul.
C'est une idée de Chang. Son auteur préféré, c'est Jean-Paul Sartre. Elle était prof de français à Pékin. Chang, on apporte le gâteau?
Et on continue à dérouler avec jeudi sur TF1. C'est l'arrivée de la nouvelle série dérivée sur le lac d'Annecy. Après Le Tueur du Lac, Le Mystère du Lac, c'est Peur sur le Lac, où Liz Stoker va devoir faire face dans cette 3e saison, eh bien, à un redoutable virus dérivé d'Ebola. Lisa est appelée après un accident de plaisance survenu sur le lac d'Annecy. Le médecin légiste constate une grave hémorragie interne qui a causé la mort de la victime. D'autres décès suspects vont donc survenir. Une intrigue originale pour cette suite.
Il semble qu'une souche nouvelle du virus Ebola soit entrée sur le territoire. Il convient d'activer l'isolement de milliers de personnes susceptibles d'avoir été en contact avec le virus.
Tout est sous contrôle.
Vraiment?
Le virus va se répandre à vitesse grand V, ça va être une hécatombe.
7 ans à d'autres villes. On n'a rien pour l'endiguer.
Et on va faire que tout ça s'arrête.
Dites-moi la vérité.
Événement. Peur sur le lac, votre nouvelle série inédite, jeudi 9 janvier sur TF1.
Et on passe à vendredi sur France 2. Eh bien, ça sera la rediffusion de L'Homme au complet marron, un des numéros de la série Les Petits Meurtres d'Agatha Christie. Alors n'hésitez pas, c'est aussi très jouissif de voir Samuel Labarthe habillé en femme dans cet épisode exceptionnel que vous pourrez donc revoir si vous n'avez pas eu la chance de l'avoir encore vu. C'est vendredi à 21h05 sur France 2, extrait.
Oh, quelle torture cette journée. Oh, ces chaussures. Oh, on devrait guillotiner les types qui inventent des chaussures pareilles. Ces regards, tous ces regards, et la main de Tricker sur ma cuisse. Non, mais vous vous rendez compte, Marlène?
Bienvenue dans le monde des femmes, commissaire. Si seulement chaque homme pouvait passer une journée en robe et en talons, cela changerait peut-être quelque chose. Oh,
rassurez-moi, Marlène, tous les hommes ne sont pas comme Tricker, quand même.
Si, tous, sauf vous, bien sûr.
Et on finit donc avec vendredi sur Canal+, la première diffusion à la télévision du film Nous finirons ensemble, la suite des petits mouchoirs. Film de Guillaume Canet, on y retrouve tous les ingrédients qui ont fait le succès du premier volet. François Cluzet, Marion Cotillard, Gilles Lelouch, alors que Max pensait passer quelques jours tranquille dans sa maison de vacances au Cap Ferret. Ses amis, qu'il n'a pas vus depuis 3 ans, viennent fêter son anniversaire. Ça va encore donner.
Je te dis que je vais pas bien, que j'ai besoin d'être seul. Et toi, t'invites une bande de potes que j'ai pas vu depuis bientôt 3 ans pour faire une fête?
Tu peux manquer, mon pote.
Alors?
Alors, on va peut-être pas rester, hein?
Ah ouais, carrément.
Véron arrive dans 2 jours, et moi, évidemment, j'étais censé me barrer.
On voulait juste faire une surprise pour ton anniversaire.
Mais je ne veux pas fêter ce putain d'anniversaire! Merde! C'est pas parce qu'on a été potes pendant 20 ans qu'on est obligé de rester, hein?
Max, on est revenu parce qu'on n'a pas envie de vivre sans toi.
Mais tu le sais bien, peut-être t'es comme mon grand frère, pas tes bons grands frères à tous.
Je vous appelle, je vous les détecte depuis une demi-heure! Ça fait 4 fois que Mila se réveille, hein, surtout à cause de vos cris! J'en peux plus!
Indiscrétion, scoop,
scoop,
news, tout de suite, l'infomédia.
Et dans l'infomédia de cette semaine, et bien après des années de secrets, c'est Netflix qui révèle enfin quels sont les films, les séries et les documentaires les plus regardés en France. Et voici donc les tableaux. Et je peux vous dire qu'il y a des surprises. Un premier pas, même si les spécialistes médias vont noter qu'il manque une donnée importante, c'est le nombre de visionnages pour chaque série ou chaque film. Une absence de chiffres qui nous empêche par exemple de savoir quelle est la différence de téléspectateurs entre le premier et le deuxième du classement. Alors pour le top 10, toute catégorie, c'est la Casa des Papel, saison 3. Qui l'emporte et qui a été donc la plus vue sur Netflix. The Witcher arrive en 2e position, Six Underground arrive en 3e position, Sex Education arrive en 4e et Umbrella Academy arrive 5e du classement. Pour les places 6 à 10, on y retrouve Stranger Things saison 3, la série You saison 2, Triple Frontière, la saison 2 d'Elite et Family Business. Alors si on regarde maintenant dans le détail, on trouvera par exemple pour le top 10 des séries en France, et bien toujours la Casa des Papel, bien sûr, en première position, suivi de The Witcher, Sex Education, Umbrella Academy, Stranger Things pour les 5 premiers. On y retrouve bien notamment Comment élever un super-héros en 9e position ou encore 13 Reasons Why, la saison 3, à la 10e position. Pour le top 10 des films Six Underground, Triple Frontière et Banlieusards, c'est les 3 premiers du podium. On y retrouve pour les places 4 à 10 The Irishman, Close, The Perfect Date, Isn't It Romantic, Tall Girl, Murder Mystery ou encore Falling in Love. Et enfin pour le top 10 des documentaires, c'est Notre Planète qui arrive en première position, suivi de Grégory, de Nekfeu, Les Étoiles Vagabondes, le documentaire Antoine Griezmann, champion du monde, ou encore Homecoming, un film de Beyoncé. Et pour les places 6 à 10, on y retrouve notamment eh bien, Travis Scott, Fire, Formula One ou encore Les Derniers Tsars. Et dans l'infomédia, mais cette semaine aussi, c'est les chaînes publiques France 4 et France O diffusées sur la TNT qui devraient cesser d'émettre à compter du 9 août prochain, a annoncé leur maison mère France Télévisions, confirmant une information du Monde. La fermeture des deux chaînes à l'horizon 2020 avait été annoncée en juin 2018 par la ministre de la Culture de l'époque, Françoise Nyssen, au nom d'une accélération des investissements dans le numérique de France Télévisions. Le calendrier précis de fermeture des deux chaînes n'avait pas été encore annoncé. La direction du groupe évoquait jusqu'ici une fermeture au cours du 2e semestre. Un arrêt en plein été paraissait la solution la plus plausible. Cela permettra aux deux chaînes de terminer leur saison 2019-2020 sans avoir à installer de nouvelles grilles pour une saison suivante qui aurait été réduite au mieux à quelques mois. L'arrêt de France 4, chaîne consacrée notamment à la jeunesse, et de France O, chaîne des Outre-mer, doit s'accompagner d'un basculement de leurs programmes sur des plateformes numériques et d'un renforcement des programmes pour enfants et ultramarins sur les autres chaînes du groupe. Ce chantier a déjà été amorcé avec le lancement en décembre d'Oco, nouvelle offre en ligne pour les enfants de France Télévisions qui succède à ses anciennes marques Ludo et Zouzou et offre de nombreuses émissions et dessins animés inédits. L'arrêt des deux chaînes a généré des inquiétudes en interne et en externe, notamment au sein de la filière française de l'animation France 4, diffusant de nombreux dessins animés made in France, qui avait plaidé en faveur d'un moratoire et parmi les élus d'outre-mer qui redoutent une moins bonne visibilité de leur territoire sur le petit écran.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, c'est notre premier coup de cœur ciné de l'année. On est le 6 janvier et c'est la première équipe que l'on reçoit en 2020. Ils sont avec nous puisqu'on va parler de ce film, une belle équipe qui nous attend le 15 janvier au cinéma. Et on reçoit le réalisateur Mohamed Hamidi qui est de retour dans notre émission. Bonjour Mohamed.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, trois des comédiennes, là je suis gâté aujourd'hui, puisqu'on est entouré avec Sabrina Ouazani qui est avec nous. Bonjour Sabrina.
Bonjour et bonne année.
Merci d'être avec nous. Alexandra Roth qui est avec nous aussi. Bonjour Alexandra.
Et bonjour et bonne année.
Et puis la régionale de l'étape, puisque c'est aussi l'enfant du pays dans notre région Nouvelle-Aquitaine. Elle est originaire de Charente. Manika Auxire. Bonjour Manika.
Et bonjour et bonne année à tous.
Merci à tous d'être avec nous dans la bonne humeur parce que évidemment c'est la première émission de l'année et c'est notre premier coup de cœur ciné. Une belle équipe. J'aimerais savoir déjà avec toi Mohamed comment est né ce projet, comment est née cette histoire.
Alors après trois films qui étaient plutôt autour de personnages masculins, j'ai voulu faire un film autour de personnages d'héroïnes féminines et je trouvais que diriger, faire une histoire, écrire autour d'une équipe de filles, c'était un bon moyen de voilà de raconter aussi des personnages féminins que j'ai autour de moi, notamment mes sœurs, puisque j'ai 6 sœurs, et donc je trouvais que faire une équipe de filles, faire une rencontre entre des filles et des garçons, c'est un bon moyen de voilà de changer un peu de prisme par rapport à ce que je fais depuis maintenant 4 films quoi.
Alors, deuxième film d'affilée avec Mohamed pour toi Sabrina et le rôle de Sandra.
Ouais, je suis trop contente. Moi, c'est pas un secret. Moi, j'adore Mohamed, j'adore son travail et j'adore ce qu'il est humainement. Donc, j'étais contente effectivement de le retrouver pour ce deuxième film dont le scénario me plaisait énormément. Pour ce que ça racontait, pour le sport qui est aussi une passion, le foot que j'aime beaucoup, mais aussi pour ce que ça raconte, le rapport homme-femme, la femme dans la société. Et ouais, ça a été un plaisir d'interpréter Sandra.
Pour toi, Alexandra, alors toi tu interprètes Jessica, me semble-t-il.
C'est ça. Moi, Jessica, c'est un rôle que j'aime beaucoup, mais surtout parce qu'il était amené par Mohamed, qui fait des choses un peu sur mesure, comme ça, et qui nous laisse vivre. J'aimais beaucoup le cinéma de Mohamed avant, donc j'étais hyper contente de pouvoir... ne serait-ce que passer un casting et y participer, c'était vraiment un super moment et j'ai rencontré une équipe, c'était une vraie équipe, c'était génial.
Une vraie équipe de filles, vous allez voir, c'est un film en même temps une histoire d'amitié, une histoire d'équipe, mais une histoire d'amitié aussi qui se crée, on va le voir au fur et à mesure du film. Hein. Sabrina, tu voulais dire quelque chose?
Non, je voulais dire qu'effectivement, une histoire de nana, mais aussi très très bien entourée de mecs, avec Can Merad, Alban Ivanov, Guillaume Guisc, Oscar Cobb, David Salles, et j'en passe, et ça a été extraordinaire, parce qu'effectivement, on était aussi entourés de très grands noms qui ont su... pas s'effacer, c'est pas le bon terme, mais en tout cas qui ont eu la générosité, folle en tournage, dans le jeu et aussi à qui nous regardaient avec beaucoup de bienveillance.
Alors Manika, tu joues le rôle de Cindy. Alors moi je t'ai connue Miss Poitou Charente. On s'est ensuite retrouvé sur la Star Academy puisque j'ai suivi ton parcours un petit peu depuis tes débuts. Il y a eu Au Perché l'année dernière. Là t'arrives avec ce film dans un rôle complètement contre-emploi de ce qu'on a l'habitude de te voir et de ce que tu es toi surtout. Parce que là, on va te voir dire beaucoup, beaucoup de gros mots.
Alors, dans la vie, je dis quand même pas mal de gros mots aussi. Hein. Mais mais du coup, oui, carrément, c'est autre chose. Au Perché, c'était plus un film d'auteur, un huis clos, etc. Et là, c'est vraiment ma première comédie. Donc où je joue le rôle de Cindy, la poissonnière un peu du groupe, et c'est très agréable parce que c'est un rôle de compo et du coup pour une actrice c'est toujours cool de pouvoir jouer des choses comme ça et avec une équipe du tonnerre. Et voilà, donc belle première expérience pour moi dans la comédie.
Alors, tu t'es essayé à plein de choses, à la chanson aussi, t'es vraiment une artiste multifacette, comme quoi ça peut déboucher sur plein de choses. Et il est vrai qu'aujourd'hui, dans quoi tu te sens mieux? La musique, la comédie, être devant les caméras, dans quoi tu te plais le mieux aujourd'hui?
Dans le jeu, plus que dans la musique. Donc dans le jeu, donc que ce soit sur scène ou devant la caméra, j'ai eu 2 expériences, donc Au Perché et puis une belle équipe et d'autres choses aussi qui vont venir plus tard. Enfin, ce que je préfère, c'est la scène et surtout le théâtre et vraiment cet échange avec le public sur un plateau.
Mohamed, comment on choisit toute cette troupe de filles pour pas se tromper dans un casting, pour pas se planter, pour se dire voilà, je veux un tel et se dire voilà, je vais avoir la bonne équipe. C'est le cas de le dire, la belle équipe.
Bah quand on fait un film, moi j'ai l'habitude de dire que je fais assez peu de direction d'acteur pendant le tournage, même si on en fait tout le temps de la direction d'acteur quand on parle, quand on lit, quand on se dit deux, trois mots comme ça. Il y a des acteurs qui finalement sont assez sensibles et qui voient même dans la manière dont on leur explique la scène, la direction qu'ils doivent prendre. Mais c'est vrai que moi j'ai l'habitude de dire que le casting c'est quasiment l'élément central du film une fois qu'on a écrit des personnages. Et là effectivement j'avais beaucoup de gens à caster dans ce film, notamment beaucoup de filles. Alors Sabrina, je la connaissais parce qu'on a déjà fait un film ensemble dans Jusqu'ici tout va bien. Et donc effectivement j'avais même écrit en pensant à elle sur ce rôle-là, même si je l'avais pas dit au début.
Non mais j'apprends un truc extraordinaire, je suis trop contente. Continue.
Non parce qu'en fait c'est vrai qu'on était sur un autre film et il fallait vraiment qu'elle soit concentrée. Je voulais pas l'enlever de son personnage du précédent film de Leïla où elle avait un autre rôle complètement différent. C'était l'assistante de Gilles Lelouch, hyper droit dans ses bottes, qui était hyper révoltée d'aller comme ça en banlieue, qui petit à petit se réimprégnait de son univers. Donc c'était carrément un autre personnage, un autre environnement. Et je voulais pas brouiller les pistes, donc je l'ai vraiment laissé rester dans son personnage. Et une fois qu'on a fini ça, je lui ai parlé de ce personnage de Sandra qui était complètement différent. Après Alexandra et Manika, je les ai rencontrés en fait par des castings tout simplement. Moi je les connaissais pas, je ne savais absolument pas voilà. D'ailleurs quand je les ai vus la première fois, je ne savais pas qu'Alexandra faisait de la scène, je ne savais pas que Manika avait fait de la chanson ou qu'elle avait été Miss. De la même manière que je ne savais pas que Maïra tournait dans Plus belle la vie, etc. Je les ai vraiment rencontrés de manière assez vierge. Mais ça, j'aime bien quand je rencontre des actrices, d'abord voir leur passage, c'est-à-dire la scène qu'elles ont jouée. Et à partir de là, ça colle ou ça colle pas. Et là, il se trouve qu'effectivement, ça a collé si bien d'ailleurs que d'ailleurs... Pour Alexandra comme pour Manika, j'ai réécrit des choses après pour elle. Je me suis beaucoup battu pour Manika parce qu'effectivement, voilà, je voulais vraiment cette énergie-là, ce son-là, cette musique-là pour le rôle de Cindy. Et pour Alexandra, une fois qu'on s'est rencontrés, j'ai réécrit même un bout de scène, hein, il me semble, une scène parce que je trouvais qu'elle avait, voilà, elle avait un phrasé incroyable. Hein, et donc, je lui ai écrit une scène qui est la fameuse scène du thé où elles prennent tout le thé. Voilà, autour d'elle et où elle raconte comme ça une histoire. Voilà, j'aime bien aussi utiliser le potentiel et de ce que sont les acteurs ou les actrices pour m'adapter à leur entité, quoi.
On va écouter la bande-annonce. Une belle équipe, ça sort le 15 janvier au cinéma et c'est le premier film en 2020 que l'on vous conseille. On écoute.
La commission de discipline a décidé de suspendre l'ensemble des joueurs du SPAC jusqu'à la fin de la saison.
Moi, je finis la saison.
J'ai eu une idée. Pourquoi pas faire une équipe de filles pour jouer les trois derniers matchs?
Des joueuses? Tu te fous de moi par contre?
T'as déjà vu des mecs jouer contre des filles toi au foot?
Qui serait volontaire?
Moi.
Elle craque des couilles.
Oui, ça va, ouais.
Emile, t'écoutes les conversations?
Allez, les mains sur le bassin et on tourne au bassin. Comme si on faisait du hula hoop.
C'est quoi ces exercices? On n'est pas au Club Med là?
Faut y aller là, dimanche on aura des bonhommes en face de nous.
Allez les filles!
Là je te prépare le biberon d'eau, il faut mettre 6 doses. Et puis ce serait super d'éteindre la machine à laver, mais c'est tout mis sur les post-it.
J'ai rien compris, moi.
Voilà la bande-annonce. On va se retrouver dans 3 minutes. On marque une petite pause. Vous restez avec nous et on continue à parler du film dans un instant.
À tout de suite.
Ouais, bien sûr, à tout de suite.
Mais restez là.
Bah oui, à tout de suite.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé. Reviens dans un instant. À tout de suite. Chut, on écoute la télé. Le talk show radio. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, de retour dans Chut, on écoute la télé pour parler d'une belle équipe. Le film sort le 15 janvier au cinéma. Mohamed, comment on pourrait pitcher en quelques mots les toutes premières secondes du film? Comment ça démarre?
Alors, on est dans un petit village du Nord. Il y a une équipe d'un club centenaire qui s'appelle le SPAC. Une équipe de mecs qui se bagarrent dès le début du film et qui donc est suspendue. Tous les mecs sont suspendus. Il n'y a plus d'hommes dans le village. On n'arrive plus à finir le championnat. Il reste 3 matchs. Cela met en péril le club et pour finir ces 3 matchs, il y a une des joueuses qui est la fille de l'entraîneur, qui est en l'occurrence jouée par Kadmerad, qui propose de faire une équipe de filles pour finir le championnat, mais contre des mecs. Donc en fait, ce sont des mecs qui sont sanctionnés et qui sont remplacés sur le terrain par leurs femmes, leurs filles, leurs sœurs, leurs voisines, pour finir le championnat et pour essayer de sauver le club. Donc quelque chose d'assez inédit, puisque on assiste à des matchs de foot mixtes en fait.
Alors on va entrer un peu dans les personnages, dans chacun de vos personnages. Comment tu définirais Sandra, Sabrina?
Ah, Sandra, c'est une fonceuse, un peu une tête brûlée, tête dure. En même temps, c'est une nana qui a beaucoup d'énergie. Elle a une passion qui est le foot, effectivement. Elle a ses démons et elle sort de prison. Mais après, je vais vous laisser découvrir la suite de son histoire réellement personnelle. Mais voilà, c'est une nana qui est pleine de quand même de bonne volonté, de belles énergies et qui a envie de sauver cette équipe et de se donner à fond pour sauver le SPAC.
Prendre un nouveau départ dans la vie peut-être aussi, on sent.
Effectivement, bien évidemment, de prendre un nouveau départ. J'ai pas envie de spoiler les gens. J'ai envie que les gens découvrent un petit peu l'histoire de Sandra dans ce film et ce qu'elle est venue aussi défendre et essayer de récupérer. Mais ouais, un nouveau départ pour Sandra aux côtés de cette belle équipe.
Jessica, comment pourrait la définir Alexandra?
Bah, Jessica, c'est vraiment la fille de notre génération, je pense. C'est-à-dire elle a une petite trentaine, elle est célibataire, elle est flic, et elle est ok avec toutes ses copines. Ouais, je pense qu'elle a vraiment un truc des nanas de notre génération, quoi. C'est-à-dire qu'il y a rien qui l'empêche d'avancer, quoi. Ni être une femme, ni rien de tout ça. Elle est ok avec ça. Elle a pas de mec pour l'instant. Je sais pas si elle arrive vraiment à laisser sa place aux hommes dans sa vie. Et voilà, elle boit des coups avec ses copines et elle va taffer. Et quand il faut jouer, bah, elle joue.
C'est peut-être la plus libre d'entre toutes, finalement.
Non, je crois pas que ce soit la plus libre du tout, bien au contraire, parce que c'est beaucoup plus facile pour elle d'être libre que pour toutes ces nanas qui ont d'autres choses à gérer à côté de ça. Donc c'est pas la plus libre, c'est juste celle pour qui c'est plus basique, en fait, de vivre cette aventure. Là où elle est marrante, c'est qu'elle est très rentre-dedans, quoi. D'ailleurs, elle est beaucoup plus rugby woman que footballeuse. Elle passe son temps à plaquer tout le monde. Mais ça me ressemble en plus. Donc, mais c'est voilà, c'est comme ça que je définirais Jessica. Moi, je l'aime beaucoup.
Manika, comment on pourrait définir Cindy?
Cindy, c'est une jeune fille, je dirais, un peu solaire, un peu brasse-bouillon, qui n'a pas sa langue dans sa poche, qui est impulsive et qui dit ce qu'elle pense au moment où elle a envie de le dire. Et c'est une combattante aussi, je pense. Elle s'engage vraiment dans le foot. Elle est très avec ses partenaires aussi. C'est une bonne camarade. C'est bien de l'avoir dans son équipe.
C'est très très bien de l'avoir dans son équipe, je confirme. Mohamed, on va terminer un petit peu par chacun d'entre vous un de vos souvenirs de tournage et de cette histoire. Et puis bien sûr mettre en avant aussi tous les garçons qui vous entourent. Guillaume Griggs, Alban Ivanov, David Salle et plein d'autres. Il y a tellement d'artistes talentueux. Et puis bien sûr Kad Merad en meneur d'équipe absolument incroyable.
Ah, il y a beaucoup de souvenirs. C'est difficile de trouver un souvenir. Mais le souvenir principal restera quand même pour moi le moment où on a tourné le foot dans le Nord. Si on parle de souvenirs de cinéma, parce que j'ai un autre souvenir moi qui est plus personnel, c'est que j'ai eu un enfant pendant le film. Donc ça prend le dessus sur tout le reste. Voilà, en plein milieu du tournage, j'ai dû rentrer comme ça pour aller voir naître mon fils. Donc ça, c'est un souvenir fort. Mais sinon, c'est vrai que je garde comme ce souvenir des matchs, notamment des premiers matchs qu'on a fait tous ensemble. Et je me rappelle notamment de la première fois qu'on a tourné les filles sur le terrain et où tous les mecs étaient là un peu sur le côté en se disant, bah, allez, c'est la journée où on va un peu s'ennuyer. Et dès qu'elles ont touché le ballon, ça s'est levé vraiment. Et quand j'ai vu dans le regard de Kad, d'Alban, des wow, comment ça joue, attends, pardon, etc. C'était un vrai souvenir de voir que tout leur boulot de prépa avait payé et que c'était un vrai plaisir de les voir jouer ensemble et notamment contre des mecs. Donc ça, les premiers échanges de foot, c'était vraiment un bon souvenir et surtout pour moi en tant que réalisateur, le fait de voir que ça marchait, quoi.
Moi, la sauce prenait tout de suite entre les comédiens.
Et moi qui suis derrière le combo, j'avais trois écrans là parce que ça partait dans tous les sens, de voir qu'en gros ça rentrait et que j'allais avoir des vrais matchs de foot à monter et ça c'était un vrai bon moment.
Allez, chacune d'entre vous un petit souvenir de tournage.
Je passe la première. Non, je pense qu'effectivement, ça a été... Oh, Manika passe la dernière, pardon.
Ça a le temps de chercher.
Non, effectivement, il y a eu cette scène où on s'est retrouvés toutes les filles. Une scène d'ailleurs où on peut retrouver quelques images dans la bande-annonce. Cet après-midi où on décide de prendre une petite tasse de thé tout ensemble et qui finalement finit par du déballage où on se raconte un petit peu chacun nos déboires et surtout où on s'est énormément marré. C'était une de nos premières scènes qu'on tournait vraiment toutes les filles à part Maëra qui nous a un petit peu manqué mais voilà, on a tellement eu des fous rires réellement, il y a aucun moment je crois où on s'est forcé, quoi. On était totalement dedans et ouais, on s'est bien marré.
Pour moi, c'est difficile de pas reprendre ce souvenir là.
Ça peut être un souvenir commun justement.
C'est clairement un souvenir commun. En fait, il y en a plusieurs, je pense que il y avait quand même la rencontre avec Aurélie Ménard qui était notre coach. Parce que c'est vraiment une super coach et c'est aussi une nana incroyable. Et je pense qu'elle a créé un truc assez dingue entre nous, juste avec sa manière de se comporter. Le moment quand même où je vais apprendre que je vais faire le film avec Oscar Kopp, qui est juste l'un de mes frères, mes meilleurs amis dans la vie, ça c'est génial. Et effectivement, arriver sur le tournage, pour moi c'était ma première séquence, vraiment. Et surtout c'était une séquence qui était pas... C'était la séquence que je devais porter dans le film et c'était la première fois qu'on allait se retrouver. Moi en vrai, j'ai fait la meuf qui sait ce qu'elle va faire. mais c'est pas vrai, je savais pas du tout comment ça allait se passer, parce qu'en plus j'ai peu d'expérience à l'image, et c'est assez fou de voir ce qui va se passer juste avant cette séquence, au moment où on est dans les loges, et où on va mettre la musique très fort, et on va toutes se mettre à danser, et on est obligé de nous remaquiller parce qu'on a transpiré de danser trop. Et donc ça va commencer comme ça en fait, ça va commencer avec un moment où on danse et tout, et où on va arriver sur le plateau et on va passer 4 heures à rire. Et j'avoue que pour moi, je suis rentrée chez moi et je me suis dit, et c'est très rare dans mon cas, dans ce genre de cas, je suis rentrée chez moi en me disant, ok, là je suis en train de réaliser mon rêve d'enfant. C'est vraiment ça que je veux faire en fait, c'est vraiment ça que je veux vivre avec les gens. Ça me reste en fait, c'est toujours là quelque part.
Manika, pour la régionale de l'étape, le mot final, ton souvenir ?
Eh ben moi, je vais pas vous dire mon meilleur souvenir, je vais vous dire mon pire souvenir.
Ça peut, hein, ça peut être le pire.
Là, on va changer, c'est l'attaque de fourmis volantes.
Il y a un souvenir commun, là.
L'attaque des fourmis volantes sur le terrain, incroyable. On était envahis, donc on a dû s'arrêter de tourner le temps qu'elles s'en aillent.
Pas seulement.
Et on a bouffé aussi, on a respiré, on en a dans les yeux. Et on les voit dans le film, alors regardez bien.
Voilà, regardez bien et vous allez pouvoir le voir le 15 janvier au cinéma après La Vache. Après Jusqu'ici tout va bien. C'est le nouveau film de Mohamed Hamidi que vous allez pouvoir voir. Merci à tous les quatre d'être passés nous voir et d'avoir démarré cette année dans la bonne humeur avec nous. À bientôt.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci, merci, merci.
Et merci à tous.
Bah t'étais où ?
J'étais juste au football.
Au football ?
Tu sais le truc où tu m'emmènes tous les dimanches sans me demander mon avis ?
Non mais moi je vous garantis que si vous me prenez, je vous le ramène ce point.
C'est le combienième ça ?
Il y a eu des bonnes choses. C'est votre premier match, vous vous connaissez pas encore. Progressez !
Je veux pas vous lâcher, on a commencé ensemble, faut qu'on finisse ensemble. Oh, on a besoin de toile. Marco, au nom de toutes les filles, je tenais vraiment à te remercier. Grâce à toi et grâce à vous, les filles, on vit comme des choses exceptionnelles. Moi, ouais, je suis hyper fière et puis on va te le ramener ce point du monde.
Ouais.
Qu'est-ce qui se passe ?
Bah rien, on fait un petit goûter, c'est tout.
Mais en plus, tu fumes.
Ah bah oui, Michel, je fume. Je fume de partout.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Eh bien, on arrive quasiment déjà au terme de cette première émission de l'année que j'ai été très heureux de partager avec vous. Alors avant nos aventures à l'Alpe d'Huez, que vous pourrez suivre évidemment tout au long de la semaine prochaine, un rendez-vous à ne pas rater sur nos réseaux sociaux, notre page Facebook, Chute, on écoute la télé bien sûr, et puis sur notre site internet et sur notre application Chute, on écoute la télé sur iPhone et Android. Et bien en attendant, lundi prochain, juste avant notre départ, on va vous proposer une spéciale du film Je ne rêve que de vous qui sort le 15 janvier au cinéma sur l'histoire d'amour tumultueuse entre Jeanne Reichenbach et Léon Blum. Cette occasion recevra Laurent Edman, le réalisateur, mais aussi nous recevrons Hippolyte Girardot et Elsa Zilberstein. Un rendez-vous à bien sûr vivre avec nous. Exclusif également un entretien avec celle qui joue le rôle d'Émilie Nebout. Ça sera Laurie Bordesoul qui sera notre invitée. Et puis Amel Chabi et Fred Testo passeront par chez nous pour nous parler de Fête des Gosses.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé.
Sans oublier bien sûr vos applications sur iPhone et Android, Chute, on écoute la télé. Moi je vous retrouve demain sur Attitude à 9h08, 11h08 et 13h08 pour les quotidiennes. Pour la grande hebdo de Chute, on écoute la télé, on rediffuse celle-ci demain à 19h. Et puis bien sûr je vous retrouve lundi pour une inédite à partir de 13h. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée à l'écoute de nos programmes.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin avec Chute, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez vos recettes sans colorants, sans conservateurs et vos points de vente en Charente sur mariemorin.fr. Chute, on écoute la télé avec votre espace culturel Leclerc de Barbezieux, votre référence culturelle en Sud-Charente.